enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Aujourd'hui, nous verrons la deuxième partie du message « Un cœur guéri ». Une nouvelle vie. Je ferai en introduction un court résumé de la première partie pour celles et ceux qui n'étaient pas là, qui désirent l'entendre, et je crois qu'il est important de bien comprendre la première partie pour entrer dans la seconde. Eh bien, la cassette, les CD sont à votre disposition. Nous considérons aujourd'hui ensemble le processus de destruction. Nous avions commencer à le considérer et nous verrons quatre points. Comment les cœurs se brisent. Deuxième point, captif dans nos pensées. Troisième point, un comportement aveugle. Et quatrième point, l'oppression. Et j'arrêterai là et je conclurai là pour aujourd'hui. Et nous terminerons la prochaine fois. Alors, en introduction, je voudrais relire le texte dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, les versets 14 à 21. J'aimerais également saluer les téléspectateurs, les internautes, que le Seigneur vous bénisse maintenant au travers de sa parole. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et au psaume 103, c'est David qui s'exprime et qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladie. Nous avons souvent considéré le corps quand il s'agit de guérison. Mais j'aimais rappeler ce matin que bien des personnes sont malades et sont malades au fond de leur âme. Cette maladie ne se voit pas forcément physiquement, bien que dans certains cas, cela puisse se traduire par des maladies physiques. Cependant, les blessures du cœur et la souffrance de l'âme peut se traduire par des réactions et des attitudes qui parfois surprennent ceux qui ne sont pas préparés à cela. J'avais osé faire la dernière fois un parallèle entre la maladie physique et la maladie du cœur. Si vous avez des problèmes avec le bébé, il y a une garderie. Merci. J'avais fait le parallèle entre un membre brisé et un cœur brisé. Lorsqu'un membre est brisé, automatiquement, vous êtes amputé de l'usage de ce membre, bien que vous le possédiez. Lorsque le bras est cassé, vous possédez le bras, mais vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous êtes donc diminué dans votre capacité d'action. Lorsque vous vous brisez une jambe, lorsque vous vous brisez le bassin, ou pour certains, plus gravement, lorsque vous vous brisez la colonne et que vous vous retrouvez paralysé, vous êtes affecté dans votre vie physique, vous êtes diminué dans vos capacités, et soudain, vous voilà, eh bien, là, mais n'étant plus capable et en mesure de faire ce que les autres font naturellement. Peut naître de là une frustration, une souffrance. Les autres se déplacent. S'ils oublient que vous avez une jambe dans le plâtre, eh bien, tout d'un coup, vous vous retrouvez à la traîne. Et le sentiment commence à naître, je n'arrive plus à suivre les autres, je ne suis plus comme les autres, je suis différent des autres. Ça, c'est quand on est atteint physiquement. D'ailleurs, ceux qui sont handicapés peuvent en parler, savent de quelle souffrance il s'agit, réalisent à quel point ce qui peut être tout à fait normal pour les bien portants, pour eux peut devenir une difficulté. Vous savez, pour vous et pour moi, deux marches, c'est rien du tout. Pour quelqu'un qui est en chaise roulante, c'est un monde si personne ne l'aide. Pour vous, vous déplacez dans un endroit nouveau, eh bien, c'est pas un problème. Mais quand on est aveugle, c'est angoissant de ne pas connaître l'endroit où on est. Cependant, lorsque vous et moi, nous voyons quelqu'un qui est affecté dans son corps, eh bien, nous allons lui proposer notre aide, parce que son problème se voit. Nous pouvons le considérer. Quand un cœur est brisé, on ne voit rien. Ce n'est pas écrit sur le front. La personne ne boite pas physiquement, elle peut boiter émotionnellement. Elle peut boiter dans sa vie affective. Elle peut boiter dans ses sentiments. Elle peut avoir des réactions qui vous surprendront. Parfois, eh bien, c'est l'apitoiement sur elle-même. Parfois, c'est la violence. Et on peut passer d'un extrême à l'autre. Cependant, pour ceux qui sont à côté, il est difficile de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas de chaise roulante, c'est à l'intérieur. Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux dont le cœur a été brisé. Permettez-moi maintenant de continuer, ce n'était là que l'introduction et le résumé. Lorsque nous avions parlé de cœur brisé, j'avais fait un parallèle. La définition pour un traumatisme physique, eh bien, dit la chose suivante. Le traumatisme physique est provoqué par l'impact mécanique d'un agent extérieur. Et souvenez-vous, la dernière fois, eh bien, j'avais dit que celui du cœur, le traumatisme du cœur, a souvent un agent extérieur à l'origine. Nous avions vu ensemble que la langue, entre autres, est souvent l'instrumentation par laquelle les cœurs vont être brisés. Ce sont des mots violents, ce sont des mots qui, eh bien, touchent l'autre, le blessent, le détruisent. Ce n'est pas pour rien que Jacques dit que la langue est chargée d'un venin mortel. Lorsqu'un serpent chargé d'un venin mortel vous mord, il y a de fortes chances, si l'on n'intervient pas immédiatement, que vous mouriez. Mais lorsqu'une langue vous mord, lorsqu'un mot vous mord, ça ne se voit pas. Mais ça vous tue à petit feu. Je ne reviendrai pas sur la langue, je l'ai traitée dans ma première partie. Je ne dirai qu'une chose. Jésus a traité très sévèrement la chose en disant dans Matthieu 5, 22, eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère « imbécile » mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Bien-aimé, celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Je ne sais pas si vous réalisez le Sauveur. Lui qui est venu, qui a quitté le ciel de gloire afin de nous arracher à l'enfer, dit lui-même que celui qui dit cela de son prochain mérite l'enfer. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il considère que celui qui parle comme ça à son prochain est un meurtrier. La langue tue des hommes. La langue tue des femmes. La langue tue des enfants. La langue tue des maris, tue des épouses. La langue tue. Et Jésus considère cela comme un meurtre. Son jugement, c'est celui qui accompagnera les meurtriers, l'enfer. Ce matin, je désire bien sûr aider ceux qui souffrent dans leur cœur. Je désirerais également que chacun d'entre nous tire un enseignement, une leçon, apprenne quelque chose afin de mieux comprendre ceux qui sont blessés, ceci pour les aider. Ce message ne s'adresse pas qu'au cœur brisé, il s'adresse à l'ensemble de l'Église, dont certains ont peut-être le cœur brisé et d'autres ont besoin d'apprendre pour aider les cœurs brisés. Si les paroles sont un moyen, j'aimerais vous rappeler que les actes d'autrui sont un autre moyen pour briser le cœur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché produit la mort, quelle que soit sa forme. Quand vous péchez, vous faites souffrir. J'avais pris la dernière fois, pour mieux imager cela, une pomme. Vous souvenez-vous ? Elle imageait un cœur. Eh bien, je vais continuer et j'ai ramené une nouvelle pomme, l'ancienne étant fatiguée. Je vais avoir besoin d'une assistante, parce que mon assistant Jean-Claude n'est pas là. Et je pense que la meilleure assistante possible, c'est quelqu'un que je voudrais vous présenter ce matin. C'est une femme merveilleuse, elle s'appelle Jeanne. Elle va venir rapidement chez moi. Viens vite chez moi, ma petite Jeanne. Voilà la sœur qui, avec la famille Meyer, tous les dimanches matins, vous prépare la Sainte Cène sans que personne ne le sache. À 7h30 du matin, elle est déjà là. J'aime honorer. C'est mon autre fiancé. Et Dominique n'est pas jalouse. Nein, gehe ich nicht wieder. Jetzt helfst du mir meine Äpfel und helfst mir in meiner Predigt. Elle n'est pas belle, mon assistante. Vous savez ce qu'elle vient de me dire ? T'aurais dû prendre Christine, pas moi. Combien de personnes ont été brisés par des actes. Non seulement les mots tuent, mais les actes détruisent. Vous avez été peut-être ce matin brisé par un adultère. Vous savez, on est dans une société qui nous présente l'adultère comme une promenade de santé. C'est presque comme si c'était normal. Mais j'ai vu, moi, des femmes et des hommes hurlés de souffrance. Je ne les ai pas imaginés, je les ai vus. Se taper la tête contre le sol, désespérés de ce qu'ils avaient vécu, me disant, je lui ai fait confiance, j'ai tout bâti sur lui. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et mes amis, à ce moment-là, eh bien dans le cœur, c'est ce qui va vous briser. On va monter la pomme, ils vont le fixer avec la caméra. Chère assistante, et je ne te coincerai pas les doigts. Quand vous avez ça dans un cœur, croyez-moi que ça fait mal. Et ça ne se règle pas comme ça. Souvent on dit aux gens, il faut pardonner. Oui. Plus vite dit que fait. Vous avez peut-être ce matin été brisé simplement parce qu'on vous a rejeté sur la base de votre physique. Si vous saviez la souffrance que j'entends, sur la base de votre couleur, il n'y a rien de plus terrible que le racisme. Vous n'imaginez pas le mal que vous faites. Certains propos détruisent. J'aimerais vous dire que certains propos sont comme ce crochet. Ça rentre. Lorsqu'on rejette quelqu'un à cause de la couleur de sa peau, tu te changeras à la maison. Hein ? Je vous assure que ça laisse des traces profondes. Hier, j'ai vécu quelque chose de merveilleux pour moi. Je disais, Seigneur, demain, je repars là-dessus. Est-ce que c'est ton plan ? Et alors que je parlais là-dessus, me revient le témoignage d'un frère. C'est le frère Chevalier Patrice qui travaille avec mon frère Mamadou Karambiri. J'écris dans ma prédication « Chevalier Patrice ». À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est Chevalier Patrice du Burkina Faso que je n'avais plus au bout du fil depuis un an. J'étais en train d'écrire « Chevalier Patrice ». Le téléphone sonne. Le Seigneur me disait « Vas-y, c'est moi qui veux cela ». Patrice, à l'âge de 3 ans, a été mordu et défiguré par un chien. Et alors qu'il était défiguré par ce chien, eh bien, sa souffrance commencera dès l'école, parce qu'il était différent. Et sa différence va l'amener à être rejeté. Et le rejet lié à sa différence l'a amené à être toujours isolé. Et il me dit, le point d'orgue de ma souffrance sera le suivant. J'avais un jour anniversaire, alors ma maman me dit, Patrice, on va te faire un gâteau. On va mettre là des bougies dessus et on va inviter tes copains parce que c'est ton anniversaire. Et pour ton anniversaire, ils viendront et je ferai un beau cadeau et ce sera une belle fête. Et elle me dira, maman avait préparé l'endroit. Et puis elle a invité tous ceux qui étaient avec moi à l'école. Elle leur a dit, mais je ferai un beau gâteau et on fera une belle fête. Venez pour Patrice. Il dit, ils étaient invités à 14h. À 13h30, il n'y avait encore personne. Alors je me réjouissais parce que je me dis, ils arriveront bientôt. Et puis à 13h45, il n'y avait personne. Et je me suis dit, mais ils vont bientôt venir maintenant, ça va être 14h. Et puis 14h est arrivé et il n'y a eu personne. Et puis 14h15 est arrivé, il n'y a eu personne. Et nous n'avons jamais mangé le gâteau avec mes amis parce que personne n'est venu. J'étais différent. J'ai eu plus tard des envies de suicide et des envies de mort. Rejeté pour votre couleur de peau, rejeté à cause de votre race, rejeté à cause de votre physique. Vous avez peut-être été, je ne veux pas m'étendre trop longuement, mais été victime simplement d'un abandon. Vous avez eu peut-être des parents dominateurs. Vous avez connu peut-être un foyer où l'alcool a sévi, la drogue, subit un inceste, on n'est plus jamais la même, à moins que Jésus ne guérisse. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cela vous suit, vous le savez, cela vous suit dans votre couple, ça vous suit dans votre mariage, ça vous tourmente dans votre relation avec, vos maris, avec votre mari, cela vous mine intérieurement. Et puis, votre cœur a peut-être été brisé par votre propre péché. Combien ont un cœur brisé à cause de ce qu'ils ont fait? C'est vous-même qui vous êtes brisé le cœur. J'ai vu un homme un jour venir, il était en larmes. Il me dit, ma femme m'a quitté, j'ai 2 enfants, ma femme m'a quitté. Je lui dis, c'est terrible, on va prier. Il me dit, mais attendez pasteur, je crois que je sais pourquoi je suis brisé aujourd'hui. Je lui dis, pourquoi? Il dit, voyez, j'ai 2 enfants, ils ont tel et tel âge, ma femme m'a quitté. Mais il y a 15 ans en arrière, j'avais une femme et 2 enfants du même âge. Je l'ai abandonnée pour ma maîtresse. Il pleurait, il hurlait tellement il souffrait. Notre propre péché a pu être la conséquence de notre souffrance. Nous ne pouvons l'attribuer à personne d'autre. Nous sommes coupables. Bien-aimés, ce matin, vous avez peut-être non seulement était brisé par votre propre péché, mais par les circonstances. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai eu déjà plusieurs fois, de manière surprenante, dans mon bureau, dans les entretiens, ce que je dis, c'est l'expérience maintenant de 18 ans de service en tant que pasteur. Je ne l'ai pas lu dans des bouquins, je n'ai pas pris de temps pour aller chercher dans des livres, j'ai simplement tiré des leçons. J'ai vu un jour une jeune femme venir et me dire « Je hais ma mère, je hais ma mère !» Je dis, mais c'est votre maman, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Je ne peux pas. Et puis je creuse un peu, je lui dis, mais pourquoi tu ne peux pas? Elle me dit, pasteur, j'étais enfant, et pendant que mon père travaillait, les amants venaient coucher avec ma mère et je le voyais. J'oublierai jamais, je hais ma mère. Quand vous trompez votre conjoint, vous détruisez vos enfants. Parce que votre conjoint est le papa ou la maman de vos enfants. J'en ai vu d'autres qui sont devenus violents simplement parce qu'on les battait constamment sans qu'ils sachent même pourquoi on les bat. Brisés par des actions, brisés par le péché de quelqu'un d'autre, brisés par ce à quoi vous avez assisté. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a une réponse de la part de Dieu. Si les circonstances vous ont brisé, Dieu est là pour vous relever. Vous êtes peut-être enfant de divorcé. Oh, je sais qu'il y a des divorces qui se passent bien. Mais quoi qu'on fasse, si maman n'est plus à la maison, il manque une partie aux enfants. Si papa n'est plus là, il lui manque une partie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça se passera plus ou moins bien, plus ou moins, mais souvent ça se passe plutôt mal que bien. J'ai vu des enfants venir dans le bureau. J'aimerais vous dire, parents, que les enfants disent parfois des choses qu'ils ne vous diront jamais. Dire simplement, je me sens coupable du départ de papa. J'ai le sentiment qu'il est parti à cause de moi. Quand vous avez des jeunes gens qui aujourd'hui ont 20 ans, ont 22 ans, qui vous disent, j'ai le sentiment que papa est parti à cause de moi, qui s'accusent, qui vivent avec une culpabilité. Je vous assure, et bien qu'ils ne vivent pas comme les autres, leurs cœurs sont brisés. Lorsqu'un adultère est commis, le cœur est brisé. Et vous savez, j'étais dans la région, je tairai l'endroit exact, mais je me souviendrai toujours de cet homme qui, petit à petit, a vu sa femme partir avec quelqu'un d'autre. Et puis, il n'y croyait pas parce que sa femme se disait chrétienne. Mais chrétien ne peut pas faire ça. Et puis l'autre, en plus de ça, se disait chrétien aussi, mais ça ne peut pas exister. Et puis finalement, oui, ça s'est fait. Et le brave homme, on ne l'a plus retrouvé. Si, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé dans les écluses du Rhin. Les actes tuent autant que la langue. Voilà comment les cœurs se brisent et voilà ce que ça donne. Des cœurs meurtris qui viennent à Jésus, qui veulent avancer. Mais s'ils ne sont pas guéris de cela, ils garderont toujours un handicap. Un handicap intérieur, un handicap qui ne se voit pas. Chère assistante, vous avez été merveilleuse. Merci Jeanne. Maintenant, lorsque je lisais le texte de Luc, je disais simplement que les cœurs étaient brisés. Et Jésus dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Puis il dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Et je vous avais dit que dans ce texte, un jour, l'Esprit de Dieu m'ayant parlé, mes yeux se sont ouverts. Et le Seigneur me montrait, mais regarde les étapes. D'abord, les cœurs sont brisés. Je vous ai donné là quelques malheureux et douloureux exemples. Il y en aurait certainement d'autres, et si l'on écoutait l'histoire de l'un ou de l'autre ici, on serait certainement surpris. Mais maintenant, eh bien, Jésus dit qu'il est venu libérer les captifs. Pourquoi est-ce que je parle de la captivité? Tout simplement parce que les souffrances engendrées par les paroles ou les actes provoquant un choc intérieur, émotionnel, ce n'est pas un os brisé. C'est un cœur brisé, vont engendrer eh bien, une manière de penser. Écoutez, l'apôtre Paul parle de forteresse. Il dit « Nous renversons les forteresses et les faux raisonnements ». Il y a des raisonnements qui sont faux et qui sont la conséquence de forteresses établies en nous, c'est-à-dire d'un système de pensée qui, lui, n'est que le résultat de notre souffrance et de nos expériences douloureuses. Les personnes dont le cœur est brisé, et c'est ma deuxième étape, ce sont des personnes qui eh bien, vont développer une manière de penser et une manière qui souvent va engendrer chez eux des attitudes et des actes que les autres autour ne peuvent saisir et ne peuvent comprendre. Le livre des Proverbes dit « Car il est comme les pensées de son âme ». car il est comme les pensées de son âme. Et vous ne devenez pas autrement que ce que vous pensez dans votre âme. Me permettez-vous de vous donner quelques exemples. Après, par exemple, avoir subi un père violent et dominateur, très souvent, ce qui va découler, c'est deux attitudes possibles. Ou une personne totalement écrasée qui n'a jamais le courage de dire quoi que ce soit, ou alors l'inverse. Permettez-moi de prendre l'exemple inverse. C'est-à-dire une jeune fille qui grandit, et chaque fois qu'elle prend des coups, elle se dit « mais plus jamais on me fera ça ». Les hommes sont tous les mêmes, ce sont des machos, on n'est que des serpillères, mais moi je vais mordre. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose qui se calcule, ce n'est pas quelque chose qui se dit, ce n'est pas quelque chose qui s'écrit, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Arrive le temps où vous vous mariez. C'est beau le mariage. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur vous a donné un vrai mari. C'est-à-dire, il ne vous a pas donné un béni oui-oui. On va là, oui chérie, on va là, oui chérie, tu veux ça, oui chérie, tu veux pas ça, non chérie. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux chérie. Moi j'ai déjà vu des couples comme ça. Des femmes qui m'ont dit, dans notre couple tout va bien. C'est super. On n'a jamais de dispute. C'est super. Et quand je les vois ensemble, tu viens maintenant? Oui, biche, j'arrive. On va chez ma mère. Oui, biche, je viens. Arrête de parler. Oui, j'arrive tout de suite. Dis, attendez, c'est ça, ça va bien? Pour moi, ça va très mal. Pour moi, ça va très mal. J'ai vu des hommes à qui je disais quelque chose. Ah, ton idée est super. Ah, Sam, je suis d'accord avec toi. Ils rentrent à la maison, ils reviennent et disent, j'ai réfléchi. Non, je pense pas que... Vous savez ce que c'était leur réflexion? Elle a parlé. Et tout a changé. Vous avez des personnes qui ont souffert comme cela. Et lorsque une jeune femme se marie avec cet état d'esprit, très rapidement, des luttes intérieures et des combats vont commencer dans le couple. Pourquoi? Parce que sans le calculer, il suffit que son mari donne des directives. Il suffit qu'il prenne sa place d'autorité, de chef, sans l'écraser, en la respectant. Mais il commence à prendre sa place, à quelque part, intérieurement, commence à bouillir quelque chose qui n'est que le résultat accumulé par le passé, une manière de penser. Et tout d'un coup, vous la voyez piquer une crise sans comprendre pourquoi. Et tout d'un coup, elle vous dit « Tu ne me prendras pas pour une serpillière !» Et vous êtes en face et vous dites « Mais chérie, j'ai jamais voulu te prendre pour une serpillière. T'es comme mon père !» Alors quand c'est une fois, ça va. Mais quand c'est constamment, quand vous avez le sentiment que ça n'arrête plus. Je pourrais continuer à développer cela, ce n'est pas l'objectif. L'inverse est vrai au niveau des hommes. Un homme qui a subi quelqu'un qui le dominait constamment. Vous savez, parfois on dit « celui-là c'est un macho ». Peut-être. Parfois c'est aussi le résultat de ce qu'il a vécu. Parfois vous n'avez simplement qu'un homme qui est en réaction, qui dit « avec ce que j'ai vécu, plus jamais je me laisserai marcher dessus ». Non, il n'y a pas que des machos, il y a aussi des hommes qui à l'inverse ont souffert, qui ont développé une manière de penser, qui sont devenus autoritaires, qui sont devenus même... Leur attitude face à la femme n'est pas juste. Mais ils sont devenus déséquilibrés parce qu'eux-mêmes ont vécu un déséquilibre. Et ils ont pensé rééquilibrer la chose, mais vous savez, c'est l'effet du balancier, vous partez d'un extrême et vous arrivez à un autre extrême. Il se peut ce matin, j'aimerais m'adresser là un peu aux jeunes. Il y a des jeunes ici. Vous avez peut-être simplement vécu le rejet en classe. Vous savez, on parle beaucoup de racisme, on parle d'un tas de choses, on parle de discrimination. Pourrais-je vous dire que quand on est chrétien, on est souvent discriminé? Pourrais-je vous dire que nos enfants à l'école vivent souvent la discrimination? Pourrais-je vous rappeler, frères, sœurs, que nos propres enfants, parfois, eh bien, dans leurs études, n'ont pas une balade de santé ? J'étais un jour avec quelqu'un, et elle me dit, j'étais rejeté, et j'étais rejeté à cause de ma foi, parce que j'étais différente. Alors certains vont bien le vivre, vont dire, ça fait rien, Seigneur, c'est à cause de toi, je suis prêt à me battre. Mais d'autres ne le vivent pas comme ça. Je vais vous dire ce qui va se passer chez certains. Elle me dit, lorsque je me suis senti rejeté, j'ai voulu absolument, mais absolument, être accepté par le groupe. Alors j'ai commencé à m'habiller comme eux, en noir. J'ai commencé à me maquiller comme elles. J'ai commencé à revêtir leurs vêtements à elles pour qu'enfin je sois accepté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre l'extérieur qui correspondait au groupe auquel elle voulait par lequel elle voulait se faire accepter ne correspondait pas à l'intérieur. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous aviez là une jeune personne qui était en contradiction avec ce qu'elle vivait au-dedans. Elle avait une apparence qui ne correspondait pas à ce qu'elle vivait à l'intérieur. Un dysfonctionnement, résultat des courses, dépression, pensée de suicide, personne ne m'aime. Bien-aimé, une telle jeune personne, eh bien, peut développer la chose suivante. Personne ne m'aime, ou alors, et là j'aimerais parler aux parents, certains de nos enfants sont en réaction. Et vous savez pourquoi ils sont en réaction ? Ils sont en réaction parce qu'ils disent, si papa et maman ne m'avaient pas éduqué comme cela, s'ils ne m'avaient pas, eh bien, les fait suivre à l'église, moi je serais comme les autres et les autres ne m'auraient pas rejeté. Donc les coupables, c'est Dieu et c'est vous. Ils ne mettent pas les mots dessus. Mais la réaction est la suivante. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec un jeune à la maison qui veut tout bazarder, avec un jeune à la maison qui vous dénigre, avec un jeune qui est révolté contre Dieu, avec un jeune qui commence à écouter de la musique, et des musiques parfois surprenantes. Pourquoi ? Tout simplement parce que je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure. Cette jeune personne me disait, j'ai commencé à nourrir de la haine, mais de la haine, des envies de meurtre. Par rapport à ceux qui m'ont rejeté parce que j'étais différente, même si je suis différente à cause de ma foi. Des envies de me venger. Le problème est le suivant. C'est que la haine, la violence, vous ne pouvez pas forcément l'exprimer, n'est-ce pas ? Que se passe-t-il ? Une frustration profonde, intérieure. Comment allez-vous évacuer cela ? Les jeunes, c'est simple. Vous savez ce que les jeunes font ? Ils regardent des films hyper violents. Ils écoutent de la musique hyper violente. Et toute cette musique hyper violente leur permet, à quelque part, d'évacuer la violence qu'ils ne peuvent pas exprimer concrètement. Frères et sœurs, tout ça, ça ne se voit pas. Tout ça, ce n'est pas écrit ici. Mais vous le traduisez dans les attitudes, dans les réactions. Dans les mots, dans les souffrances, dans les craintes, parfois dans la détresse profonde. Conditionnés par nos pensées, tenus dans nos pensées, je pourrais continuer les exemples. Cependant, permettez-moi d'aller à la troisième étape. Cette manière de penser qui nous rend captives nous fait fonctionner comme des aveugles. Avez-vous déjà vu un aveugle fonctionner ? Permettez-moi juste quelques réflexions. Un aveugle est privé de vue, donc ne peut s'orienter lui-même si ce n'est qu'il a des repères. Vous êtes d'accord avec moi ? J'ai déjà été chez des aveugles à la maison. C'est surprenant de voir fonctionner un aveugle. Un aveugle va venir et puis chez lui, il y a tel coin de table qu'il connaît, hop, il réagit. Et puis il arrive à tel coin de table avec la main, il touche, rien, oh là. Si quelqu'un veut une pomme à manger à la fin, évitez les clous. Il circule à quelque part par réflexe. Par réflexe. C'est-à-dire que, hop, il arrive, il touche avec sa hanche, ce côté, il sait qu'il est là. Donc il sait que l'armoire est là, déjà il tend la main. Cependant, sortez-le de son contexte habituel. Et très souvent, il est angoissé. J'ai vu des aveugles qui m'ont dit, quand on me sort de mon monde, je suis très angoissé. Et ils me disent, là, je deviens dépendant des autres. Parce que je ne sais pas, je ne vois pas, j'entends, mais je ne peux pas toujours situer. C'est là ma troisième étape. Ceux qui sont blessés dans le cœur, ceux qui sont captifs dans leurs pensées, dans leur fonctionnement, personne ne m'aime. Les hommes sont tous des machos, ou l'inverse. Les femmes sont toutes des marâtres. Autre chose encore, je ne vaux rien. Lorsque vous êtes conditionné comme ça, vous aussi, vous allez réagir par réflexe. Et c'est des réflexes qui vous conduiront. Des automatismes émotionnels. Tout d'un coup, hop, par rapport à une certaine situation, par rapport à une certaine parole, par rapport à certains actes, vous réagissez en conséquence et vous commencez à faire des choses que parfois vous regrettez, mais vous les faites quand même. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je prends un exemple. Imaginez quelqu'un qui a été rejeté, blessé. Il vient maintenant, il s'est donné au Seigneur, il vient à l'église, il se réjouit de venir à l'église. Bien. Il arrive au culte. Je parle avec Georges. La personne rentre, elle me voit parler avec Georges. Mais moi, absorbé par le discours avec Georges, je ne la vois pas. Dans sa tête à elle, elle rentre, je ne m'occupe pas d'elle. Que se dit-elle? Elle se dit simplement, c'est pareil qu'ailleurs, j'intéresse personne. Ils discutent ensemble, ils m'ont même pas jeté un regard. Ils m'ont même pas dit un mot. Je ne vaux rien, c'est pour ça. Je reprends le même exemple. La personne rentre. Georges et moi, nous parlons. Nous nous arrêtons de parler, nous la regardons. Et nous lui sourions quand elle rentre. Intérieurement, maintenant ils se foutent de moi. Mais vous riez, mais attendez, c'est terrible. C'est terrible parce que ces personnes-là sont constamment tourmentées et vous, vous ne savez plus comment les aborder. Ils ont des automatismes. Une personne qui a vécu l'oppression d'un homme, lorsque son mari lui dit une chose même anodine, elle réagit. Et le pauvre type, au début, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il dit, je t'ai rien fait. Ou inversement, l'épouse dit quelque chose à son mari et tout d'un coup, il rentre dans une crise de jalousie. Et alors vous vous dites, moi j'ai un hyper jaloux, j'ai un ouïe. Mais il suffit qu'il ait été trompé plusieurs fois. Son capital confiance est à zéro. Frères, sœurs, vous savez, on raconte l'histoire suivante. J'ai bien aimé cette histoire. C'est un homme qui se sentait toujours rejeté et son ami, pour l'encourager, lui dit « Allez, on va te monter le moral, on va voir le match de rugby. » Alors ils vont voir le match de rugby, ils sont dans le stade, 50 000 personnes, ça crie, ça... Et puis tout d'un coup, l'équipe fait une mêlée. Vous savez ce que c'est une mêlée? Ils rentrent tous les uns dans les autres. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Mais avoir la tête de certains, ça ne se passe pas bien. Mais enfin, ils font tous une mêlée. À ce moment-là, cet homme que son ami a emmené se met à pleurer. J'en ai marre, même ici. Son copain lui dit, qu'est-ce qui te pique? Il dit, même ici, regarde. Ils font la même chose. Il dit, quoi? Il dit, regarde, ils se sont tous mis ensemble pour parler sur moi. Ça détend au passage, mais quand vous êtes captif d'une manière de penser et quand vous fonctionnez de cette manière-là, j'aimerais vous dire que la vie devient doucement terrible. Terrible. Parce que votre passé conditionne toujours votre présent. Que se passe-t-il? Eh bien, en étant croyant, on réalise, mais j'ai de nouveau mal agi, j'ai de nouveau boudé, j'ai de nouveau fait la tête, je me suis énervé, j'ai de nouveau ceci. Seigneur, je ne le fais plus. Mais tant que tu n'es pas guéri, tu recommences. Parce que tu as mal. Deuxième chose, quand vous réagissez comme ça, que se passe-t-il? vous creusez un fossé autour de vous. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ne savent plus comment vous aborder. Les gens, vous savez, j'ai vu des gens qui me disent, tu sais, Samuel, le frère untel, moi je ne sais plus quoi lui dire. Je lui dis ça, il n'est pas content, je lui dis ça, il n'est pas content. Je lui dis ça, il s'énerve. Moi je préfère le laisser tranquille. Et tu sais ce que lui, il vit, celui que tu laisses tranquille, lui se dit, ça y est, encore un que je n'intéresse plus. Pourquoi ? Parce qu'il est aveugle sur son propre fonctionnement. Il ne réalise pas à quel point son attitude engendre des circonstances et des situations dans lesquelles les autres s'éloignent de lui. Et je termine. Quatrièmement, cet état de fait vous amène à être opprimé. Jésus a dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour libérer les captifs, ceux qui sont également prisonniers dans un système de pensée qui s'est érigé sur la base de leur souffrance. Troisièmement, il est venu pour ouvrir les yeux aux aveugles, afin que vous compreniez ce qui se passe dans votre fonctionnement et que vous changiez d'attitude. Quatrièmement, il dit qu'il est venu pour délivrer les opprimés. J'ai pris la définition du dictionnaire. Opprimé, soumettre à une autorité excessive et injuste, persécuté par des mesures de violence, asservir, écraser, tyrannisé, empêché de s'exprimer, de se manifester, étouffé, oppression. Bien, frères et sœurs, les quelques exemples que j'ai pu donner, sur lesquels nous pourrions bien sûr dire encore énormément de choses, sont souvent des gens qui sont étouffés dans leur identité, étouffés dans leur capacité. Rappelez-vous, quand vous vous brisez un membre, vous êtes diminué physiquement, d'accord ? Quand votre cœur se brise, vous êtes diminué émotionnellement. Et ce que les autres font avec facilité, vous avez du mal à le faire, voire vous n'y arrivez pas. Le fait de voir les autres y arriver, ça vous enfonce encore plus parce que vous désespérez en vous disant « Mais moi, je ne suis pas comme les autres et j'y arriverai jamais. » Vous avez reçu des qualités. Rappelez-vous cela, Satan est un oppresseur, c'est un tyran qui manipule, qui pousse au péché. Et notre traumatisme intérieur nous entraîne souvent à être privés de tous les trésors que Dieu a déposés en nous. Je suis sûr que Dieu a déposé des richesses en chacun. Et je suis convaincu que dans chaque homme, dans chaque femme, il y a des richesses. Mais malheureusement, ces richesses sont actuellement enterrées, tenues prisonniers sous des tonnes de sentiments d'amertume, de culpabilité, de manque de confiance en soi, etc., etc. Dieu veut vous guérir afin que vous puissiez agir. Le but de Dieu est de vous relever. L'objectif du Seigneur est de vous libérer. Résultat, lorsque vous êtes libre, votre couple va bien, ou mieux, bien mieux. Vos relations changent. Soudain, vous entreprenez. J'ai vu un jour un homme qui m'a dit, mon père m'a toujours dit, toi tu seras rien, tu n'arriveras à rien. Vous savez, il y a deux choses qui arrivent quand c'est comme ça. Ou alors toute votre vie, vous vous dites, moi je suis rien et j'arriverai à rien, et vous n'entreprenez rien et vous restez rien, malheureusement. Ou alors c'est l'inverse qui se passe. Pour lui prouver à votre père que vous êtes capable, vous n'arrêtez pas d'entreprendre et vous vous tuez au boulot. Mais les deux sont des extrêmes. Quand Jésus vient, il nous guérit et nous rééquilibre. Et ce matin, il veut te rééquilibrer. Ce sera la troisième partie et mon dernier message. Jésus relève et guérit. Jésus change ta manière de penser. Jésus te permet d'emmener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais pour que les pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ, il faut aussi extraire ce qui est planté dans le cœur. Parfois, dans certaines situations, et ça nous l'avons vu également dans des entretiens, dans des relations d'aide, eh bien j'ai vu des quand je dis relations d'aide, ce n'est pas un cours de psychologie. Hein. Pour moi, la relation d'aide, la personne vient, je prends la parole de Dieu, et je crois que Dieu sait mieux comment mon âme fonctionne que quiconque. Alors, il y a des gens spécialisés qui peuvent faire un certain travail, que Dieu les bénisse, mais moi je veux compter sur le Seigneur pour guérir. Lorsque certaines personnes viennent, eh bien je réalise à quel point la parole peut les changer. Mais voyez-vous, dans certains cas, ils ont accumulé une telle haine, des pensées de meurtre et de mort suivant ce qu'ils ont vécu, qu'il arrive un moment où on est à la limite de se demander dans quelle mesure cette personne n'a-t-elle pas laissé des démons entrer. Et là, vous vous retrouvez avec des gens qui non seulement ont des problèmes de blessures, mais ont des problèmes avec des puissances démoniaques. J'étais surpris cet an dernier d'entendre quelques différents échos de médecins spécialisés qui disaient dans certains cas, face à certains malades, nous nous disons qu'il ne s'agit même plus de les aider parce qu'ils ont vécu des traumatismes intérieurs. Il semblerait qu'il y a quelque chose de plus puissant qui les tient et qu'on n'explique pas. La Bible appelle ça des démons, et les démons, on les chasse. Jésus veut guérir et libérer. Pourrions-nous fermer nos yeux un instant? Et alors que nos yeux sont fermés, je termine, et c'est ma conclusion, elle est de 2 secondes. Jésus a dit, et je m'adresse également aux téléspectateurs, qu'il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur, c'est cette année du jubilé. À cette époque-là, c'est la 50e année, était proclamée par le son de la trompette. Et elle était consacrée à Dieu. Le travail s'arrêtait dans les champs. Les fonds de terre aliénés retournaient à leurs propriétaires. Écoutez bien, les esclaves étaient libérés. Bien-aimés, ce matin, vous qui êtes esclaves de pensées dans lesquelles vous êtes tenus captifs et captives, vous qui, avez passé des temps extrêmement difficiles, pour certains depuis leur plus tendre enfance, pour d'autres plus tard. Vous qui aujourd'hui savez que vous êtes prisonnier d'une certaine manière de penser et qui réalisez que par rapport à certaines situations, à certaines paroles, à certaines attitudes à votre égard, vous réagissez, et vous réagissez parfois et souvent mal, j'aimerais vous dire que l'année de grâce du Seigneur est devant vous. Elle est devant vous, vous allez entrer dans le pays promis. Vous allez entrer dans votre pays promis. Vous allez vous aussi traverser votre Jourdain. Vous allez vous aussi renverser vos Jéricho. Ces murs de faux raisonnements qui se sont érigés devant vous et qui sont comme des villes fortifiées dans votre vie, devant lesquelles vous êtes peut-être depuis des années arrêtés. Au nom de Jésus, vous les renverserez. Et vous allez conquérir votre territoire. Et vous deviendrez, non pas ce que les circonstances ont voulu faire de vous, non pas ce que le péché des autres a provoqué en nous, mais vous allez devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. Des hommes et des femmes libres, forts, en Christ, capables de répandre cette bonne nouvelle, où que vous alliez, quoi que vous fassiez. Père éternel, je te bénis pour ta présence. Je te bénis également de ce que ce matin, tu es celui qui, même si le cœur des uns et des autres est comme cette pomme, les guérit. Seigneur, je te remercie parce que tu continueras à parler à leur cœur. Et tu permettras que lorsque nous atteindrons la 3e étape et le 3e message, beaucoup d'entre eux vivent des changements profonds. C'est ma prière, c'est mon désir, voir tes brebis être heureuses. Et Seigneur, pour tous ceux qui ont eu la grâce d'être épargnés, comme je l'ai été dans beaucoup de domaines, pour tous ceux qui ont eu la grâce de ne pas vivre cela, j'aimerais te demander de les aider à garder toute l'essence de l'enseignement de ta parole, afin que le jour où ils sont eux-mêmes confrontés à des personnes brisées, ils ne les rejettent pas, ne les ignorent pas, ne les fuient pas, mais viennent leur tendre une main pour leur dire « Lève-toi et marche ».
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.